BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous et évidemment je suis très heureux de vous retrouver. Bon week-end et merci d'être là. Alors peut-être êtes-vous sur la chaîne YouTube de Tech & Co, peut-être êtes-vous en train de nous écouter en podcast, en train de nous regarder sur la chaîne Tech & Co ou sur BFM Business en tous les cas, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci de suivre De quoi je me mêle, votre rendez-vous high-tech du week-end, avec en deuxième partie tout à l'heure le défi que nous avons donné au Labo Fnac et à Lionel Costa, vous dégoter les meilleurs smartphone à moins de 500 €. C'est pas une mince affaire, vous allez voir qu'il y a pas mal de choix. Est-ce qu'on peut s'offrir un iPhone à moins de 500 €? Tiens, on posera la question tout à l'heure à Lionel Costa, vous verrez, la réponse est assez étonnante. Je vous rappelle aussi le hashtag DQJMM si vous voulez nous joindre. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour De quoi je me mêle. Et on commence De quoi je me mêle par le club de la presse IT. Bien sûr, on va revenir sur l'actualité très riche de ces derniers jours avec Anthony Morel qui est là. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Qui a pris une petite semaine de vacances, revient frais comme un gardon.
Ah oui, à fond. Tant qu'on n'est pas remplacé par ChatGPT, je suis là.
Ouais, il va falloir se dépêcher. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais on va en parler dans un instant. Alors, Anthony, vous retrouvez tous les matins sur BFM Business, entre midi et deux sur RMC et RMC Story. Et en face d'Anthony, c'est Gonzague d'Ambricourt. Salut Gonzague.
Messieurs.
Ravi de te retrouver.
Ravi d'être avec vous.
Voilà, un passionné de tech, un entrepreneur, un blogueur. Lui, c'est Gonzague d'Ambricourt. Ça fait un peu bande-annonce.
Très en forme.
C'est superbe. Alors, dans l'actualité, messieurs, GPT-4 a été annoncé. On a tous été bluffés par la version 3.5. GPT-4 visiblement nous en met plein la vue. Alors je sais que tu en parles beaucoup dans tes chroniques, Anthony, j'imagine que tu as eu le temps de vraiment de te poser sur le sujet. Ça va être intéressant aussi d'avoir le point de vue de Gonzague. Donc voilà, une accélération de cette IA, ouais. Voilà, conversationnelle comme on dit,
c'est ça, ou générative.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est fou, la vitesse à laquelle ça va, en fait, c'est ça le truc moi qui me frappe. C'est-à-dire qu'on est en train là probablement de vivre la plus grande révolution technologique, ouais, de ces 15 dernières années. Je pense depuis l'iPhone on n'avait pas connu ça.
On parlait de rupture technologique il y a quelques temps de cela, c'est vrai, on y est.
Ouais, on y est vraiment. Enfin là, on sent qu'il se passe un truc, qu'il y a une effervescence autour de ça, et surtout ça va très 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 vite. C'est-à-dire que ChatGPT, donc, qui se base sur GPT 3.5, hein, parce que c'est la brique de base, oui, technologique, était déjà extrêmement impressionnant. Et là, on a eu donc l'annonce de GPT-4, donc par OpenAI, hein, qui est l'entreprise qui fabrique tout ça. Alors, qu'on n'a pas pu tester, il faut être honnête. Pour l'instant, on en a la promesse, on a vu des démonstrations, on verra ce que ça donne une fois qu'on, ouais, l'a testé pour de vrai.
Oui, parce qu'il faut être sur liste d'attente, ou il faut payer, je crois. Enfin,
ouais,
il y a,
c'est
y a
ça.
Pas
et
mal
puis,
de.
Enfin, pour l'instant,
il faut
cas,
passer par mal d'obstacles.
C'est ça. Il y a peu de gens qui ont pu le tester, pas mais c'est vrai, ouais, que c'est absolument dingue. Alors, ce que nous dit Sam Altman, le patron et le fondateur d'OpenAI, c'est que par rapport à ChatGPT, la version qu'on a tous utilisée, il y a une différence de degré et pas une différence de nature. C'est-à-dire que ça va être encore plus impressionnant sur la qualité des résultats qu'elle va nous donner, sur sa capacité à raisonner presque comme un être humain, sur sa capacité de créativité lorsqu'on lui demande par exemple d'écrire un scénario, d'écrire un poème, d'écrire une chanson. Cette IA va même être capable de faire preuve d'humour, ce qui était l'un des points faibles de GPT 3.5 de ChatGPT. Et alors, il y a deux nouveautés assez intéressantes. La première, c'est que pour tester son intelligence, ils lui ont fait passer des examens à GPT-4, comme le ferait un étudiant humain. Et donc, on lui a fait notamment passer l'examen du barreau aux États-Unis. Donc, c'est l'examen pour devenir avocat. C'est quand même pas rien. Et les copies rédigées par GPT-4 se placent dans les 10% des meilleures copies. Alors que celles de ChatGPT, jusque-là, se plaçaient dans les 10% des moins bonnes copies. Donc, c'est pour vous dire l'écart de niveau. Déjà, ça, c'est assez impressionnant. Et la deuxième grande nouveauté, c'est que, en fait, on a donné des yeux à cette intelligence artificielle qui, jusque-là, était purement textuelle, ouais, et qui, maintenant, va être capable d'analyser des images. Alors ça nous ouvre un monde de possibilités absolument dingue. On a vu des démos. Alors, truc tout simple, c'est-à-dire qu'elle va comprendre non seulement ce qu'il y a sur l'image, mais, on va dire, les interactions entre les différents objets et des relations logiques. Par exemple, pour ceux qui nous regardent, là, on voyait des ballons de baudruche qui sont reliés au sol par une ficelle. Et donc, tu demandes à GPT-4, qu'est-ce qui se passe si je coupe les ficelles? Elle va te répondre, les ballons vont s'envoler. C'est-à-dire qu'elle va résonner en fait comme un cerveau humain.
C'est-à-dire qu'elle va détecter que c'est un ballon qui est accroché à un fil.
Exactement.
Et que si on coupe le fil, le ballon s'envole. Bah,
t'imagines, c'est dingue d'un point de vue technologique de pouvoir faire cette relation-là. Et il y a d'autres exemples assez spectaculaires.
Il faudrait que je réfléchisse pour que
pour
comprendre ça.
Alors tu sais, tu dis ça en rigolant, mais il y a d'autres exemples où par exemple le GPT-4 va pouvoir par exemple t'expliquer un dessin humoristique que tu n'as pas compris. Il y a eu des exemples de ça. Alors il te montrait un mème où c'était un truc qui n'était pas ultra drôle, mais c'était un mec qui essayait de charger son iPhone avec un câble HDMI ou un câble VGA, un très gros câble. Forcément, ça marche pas. Donc c'est drôle. Bon, pourquoi pas. Et donc on demande à GPT-4.
Enfin, ça fait surtout rire Tim Cook, je pense.
Oui, ça fait
avec ses problèmes
du
USB-C.
Et donc tu lui demandes pourquoi cette image est drôle. Et elle t'explique, elle dit parce que le câble HDMI, ça peut pas fonctionner avec un iPhone. Enfin, tu vois le truc quand même, c'est-à-dire que cette IA est capable de détecter ça, c'est absolument dingue. Donc voilà, quelques-uns des exemples. Je vais laisser Gonzague en parler un petit peu. Il y a plein d'autres choses évidemment, mais c'est quand même assez spectaculaire, quoi.
Gonzague, j'imagine que tu as suivi.
Bien sûr. On avait une conversation avec Anthony juste arrivé en plateau. Il y avait l'examen du barreau. Il a réussi aussi l'examen pour entrer à Ivy League, une prestigieuse université américaine. Et ChatGPT, ChatGPT, attention, GPT-4, s'est fait passer pour un humain auprès d'un autre humain pour remplir un CAPTCHA. Donc, vous savez, les choses qu'il faut remplir pour accéder à certains sites web, en se faisant passer pour un humain malvoyant. Alors, d'ailleurs, c'est un des vrais usages à venir de GPT-4. C'est cette fonction d'analyse d'image, elle va pouvoir aider les malvoyants, puisqu'on va pouvoir faire analyser à peu près tout type d'image. Mais on revient un peu dans le tort et la peur qu'on avait avec l'histoire de Google qui appelait des commerces en se faisant passer pour un humain pour demander « vous êtes toujours ouvert ?» etc. Là, de pas pouvoir faire la distinction entre la machine et l'homme et que la machine se fasse passer pour un homme, c'est tout à fait les scénarios Terminator, etc. Donc ça fait un peu peur. Effectivement, on parlait du fait que c'est pas très accessible pour l'instant à tester. Donc il y a un abonnement pour les développeurs qui va être basé sur l'utilisation, c'est-à-dire le nombre de requêtes qu'ils vont faire, le nombre de mots, la complexité, etc. Un abonnement à $20 aussi sans analyse d'image qui est assez basique. Ce qui est aussi compliqué, c'est que pour cette release qui est venue finalement si peu de temps après GPT 3.5, donc c'est vrai que c'est ça le côté très très impressionnant. Et déjà GPT 3.5, ça va être le produit technologique le plus vite adopté depuis tout ce qu'on connaît, donc incroyable. Il y a un petit côté secret parce que OpenAI, la start-up californienne, ne donne quasiment aucun détail sur comment ils ont entraîné ce modèle, sur quel matériel ça fonctionne, quelle est la taille du modèle, parce qu'en fait, on parle de taille. Pourquoi ils ont peur de la concurrence et ils ont aussi peur de dévoiler des failles dans le système. On a bien vu ce que pouvaient donner les failles dans le système avec les démos de Microsoft, King, etc. Ouais. Ou avec Bard. Donc, on est plus dans le secret. C'est marrant, c'est que ça va être dispo à beaucoup plus de gens que avant encore, ce sera intégré dans une tonne de produits. Maintenant, c'est dispo dans tout. Enfin, il y a de l'intelligence artificielle dans absolument tout aujourd'hui.
Ce qui est intéressant, c'est qu'OpenAI, en plus, au départ, la philosophie d'OpenAI, c'était, on est sur du logiciel ouvert, bien sûr, on va pouvoir partager toutes les trouvailles qu'on a faites, etc. Alors ça, c'était un petit peu la philosophie de départ. On voit que, doute, suite à l'arrivée de Microsoft et aux milliards que Microsoft a dit, on resserre les boulons et cette technologie qui, au départ, devait être partagée pour les bienfaits de l'humanité, maintenant, elle est pour le bienfait de Microsoft.
Ah bah, Microsoft qui a mis 10 milliards, je comprends qu'il soit moins partageur que l'esprit d'origine, hein, c'est très clair. Mais oui, t'as raison.
Mais c'était pas la philosophie de départ d'OpenAI.
Et d'ailleurs, ça a été reproché par Elon Musk, qui était l'un des fondateurs d'OpenAI, et il dit, en gros, ils se sont vendus à Microsoft. C'est la critique qu'il en fait.
Après, c'est
et
la loi du marché.
C'est la loi du marché. Et alors, c'est intéressant parce que GPT-4 est déjà intégré en fait dans Bing. Ceux qui ont eu la chance de tester ChatGPT pour Bing, alors c'est un peu compliqué entre GPT 3.5, 4, etc. Ceux qui ont eu la chance de tester ChatGPT dans Bing, en fait, ils ne le savaient pas, mais c'était secret, mais c'était déjà GPT-4 qui fonctionnait en sourdine, si l'on peut dire.
Pour tester, pour voir comment ça passait, peut-être en montée en puissance aussi,
tout à fait.
Rapport au serveur.
Ce qui est hyper intéressant, je trouve aussi dans cette annonce, au-delà de la puissance considérable là qui arrive avec ce nouvel outil. Alors oui, d'ailleurs, petite parenthèse, mais vous avez certainement vu cet extrait de la démonstration qui est devenue virale, qui pour moi a été le truc le plus spectaculaire dans la démo GPT-4. C'était ce démonstrateur qui veut faire un site internet. Et donc, il gribouille deux, trois pattes de mouche sur son carnet, une sorte de croquis, quoi, si tu veux. Il prend en photo la page de son carnet, il demande à GPT-4 « Fais-moi un site internet » et le site est codé en quelques secondes. C'est quand même assez dingue. Voilà. Donc ça, c'est quand même très, très, très spectaculaire.
Très spectaculaire. Alors bon, nous, on ne fait pas des sites internet tous les jours. On ne se sent pas visé. Mais les boîtes qui sont là dans la création de sites, qui vendent ces prestations, parfois très très chères, qu'est-ce qui va se passer ?
Je pense que ça pose une vraie question sur la transformation nécessaire de plein de métiers. C'est vrai pour les développeurs informatiques, c'est vrai pour plein de métiers. Il y a eu une étude très intéressante qui a été publiée alors un petit peu avant la présentation. Aux États-Unis, on a demandé à 1000 chefs d'entreprise américains, en gros, leur usage de ChatGPT. Il y a la moitié qui disent qu'ils ont déjà intégré ChatGPT dans leur process, d'une manière ou d'une autre. Et il y a un quart des chefs d'entreprise américains qui disent « J'ai déjà supprimé des emplois, viré des gens pour les remplacer par ChatGPT. » Donc, dans plein de domaines, si tu veux. Et il y a eu un exemple qui a été assez frappant, là, il y a quelques jours. C'est pour, alors, ça va pas nous réjouir, nous, hein, c'est les journalistes. Axel Springer, grand groupe de médias, a annoncé des suppressions de postes en disant bah attendez, les journalistes ils servent pas tous en fait quoi. Il y a des journalistes qui font de la correction, il y en a qui font de ce qu'on appelle du bâtonnage, donc ils vont reprendre une info qui a déjà été publiée, oui, la remettre un petit peu à leur sauce, la réécrire, etc. Ouais.
Bah ça, et en ça fait, c'est GPT-4 le fera, GPT-3.5 le faisait super. Et le 4 le fera encore mieux.
Évidemment. Donc t'as plus besoin, donc tu vires des gens en fait, tout simplement.
Et dans une et en plus dans l'économie de la nouvelle, donc des médias, l'instantanéité, la rapidité prime beaucoup. Donc là, de pouvoir, par exemple, transformer toutes les dépêches AFP en quelques secondes en des articles qui finissent sur ton site internet ou des bandeaux qui défilent sur une télé, c'est incroyable.
Ouais.
Donc évidemment, et on ne peut pas rivaliser.
Et tu plugs un assistant vocal là-dessus.
Alors là, en plus,
là, si t'ajoutes ça, Morel, là, François Sorel.
Là, tu fais le café. Là c'est les... ouais, bah, on n'a plus d'émission.
Anthony GPT et François Tchat.
C'est ça. Et je pense qu'il faut qu'on s'ouvre une pizzeria.
C'est ça. Voilà, je pense que je pense que justement, ce qui va rester, c'est pour ça que je disais que les métiers vont devoir se réinventer. C'est chercher où l'humain peut encore avoir une valeur ajoutée par
bien
rapport
sûr,
à la machine.
Sûr, ouais.
Je pense que ce qu'on fait, nous, alors c'est pas pour nous vanter ou quoi, mais il y a une partie d'humain, un truc qui, en tout cas, dans le court terme, je pense, pourra pas être remplacé comme ça par l'intelligence artificielle, parce que voilà, on est là, on débat, on discute. Moi, j'ai essayé pour blaguer, entre guillemets, de faire écrire une chronique par ChatGPT. Et en fait, ça rend pas très bien, parce que déjà il y a pas l'oralité, t'es pas non plus, tu vois, tu fais un truc très propre, très cadré, c'est nickel, mais c'est pas un truc que tu peux faire à la radio ou à la télé. Bon voilà, et je pense que dans tous les métiers en fait il y a des moyens comme ça de réinventer, de trouver de la valeur ajoutée.
Oui, c'est peut-être un peu un supplément d'âme, sans,
c'est ça,
voilà, qui mais fait que aujourd'hui un humain doit façonner peut-être son discours pour être le plus compréhensible pour d'autres humains, et ça, ChatGPT ne l'a pas encore.
Je pense qu'il y a des choses effectivement qu'elle alors sur la partie créativité, même si on voit que ça s'améliore beaucoup, l'humain a encore une valeur ajoutée. L'exemple qu'on prend souvent avec l'intelligence artificielle, c'est celui de la médecine, où on a des IA aujourd'hui qui sont capables de détecter un problème sur une radio, un cancer, etc., de manière plus efficace que l'œil d'un médecin humain. Mais ça ne veut pas dire qu'on va remplacer le médecin, ça va être un filet de sécurité pour le médecin. Le médecin va pouvoir se concentrer sur peut-être les cas les plus complexes, peut-être sur la relation avec le patient, sur l'humain en fait. Ça, la machine ne pourra jamais le faire. Donc dans tous les métiers, je pense qu'il y a comme ça une manière de se réinventer. Mais j'ai demandé, c'est marrant, parce que j'ai posé la question du coup à ChatGPT, fais-moi la liste de tous les métiers que tu vas remplacer dans les années qui viennent. Et en fait, alors elle me répondait cash il y a encore 15 jours, et là, depuis quelques jours, elle prend beaucoup plus de pincettes. Des fois, elle refuse même de répondre. Elle dit non, mais je suis pas là pour remplacer les humains, mais il va falloir réinventer quelques métiers, etc. Bah, tu vois, elle te fait une réponse comme ça, avec beaucoup de circonvolution. C'est assez rigolo.
Gonzague, est-ce que tu penses que... alors, toi, t'es dans un métier... ton métier principal qui est entrepreneur et tu es dans le réseau, etc. Est-ce que tu réfléchis déjà à l'adoption de ce type de technologie pour toi? Ou finalement, aujourd'hui, tu vois pas trop l'intérêt?
Si. Alors, on réfléchit à deux choses. On réfléchit au no-code qui permet d'aller connecter des applications entre elles avec une grande facilité. Et on réfléchit à l'intelligence artificielle, au machine learning, à comment ça peut servir dans notre métier. Et aussi, peut-être les parties de conseils qu'on fait aujourd'hui et qui n'auront plus sens demain parce qu'elles seront mieux faites par une machine, elles seront faites plus rapidement.
Automatiser les conseils.
Exactement. Par exemple, là, quand on va installer du Wi-Fi dans une société, tu as des outils pour analyser l'endroit. Et ça se fait avec un humain qui se déplace avec des équipements pour faire des mesures. Demain, peut-être que c'est un robot et que c'est GPT-4 qui dit, il faut des bornes Wi-Fi à tel endroit, et que toi, tu ne sers plus dans cette partie-là. Donc, c'est super important parce que sinon, ton boulot, il est détruit. Et après, c'est aussi voir comment tu peux t'en servir pour amener des choses pertinentes et intéressantes à tes clients et comment c'est dispo dans les outils qu'on propose. C'est pas évident, hein. C'est un vrai virage à prendre et je pense qu'il faut pas le rater, il faut pas se dire oh là là, trop frileux ou.
Ouais, c'est vrai qu'on se retrouve aussi devant un Eldorado de nouveaux métiers, de nouveaux business. Qui s'annonce incroyable. En fait, tout est à construire avec cet outil.
Exactement, et c'est pour ça qu'il ne faut pas être non plus dans la parano. Et bon, nous, on est plutôt technophiles, on a tendance à voir le verre d'eau à moitié plein quand
c'est
on parle
ça.
De techno.
On embrasse plutôt ces technologies
Si tu veux, moi, je fais souvent les chroniques sur RMC, donc je parle souvent aussi de ChatGPT. Ouais. Et c'est vrai que les réactions des auditeurs, la réaction moyenne, c'est quand même plutôt une réaction de crainte.
Oui, bien sûr.
Et de dire, super. Donc, en gros.
Après, c'est typiquement, c'est un peu franco-français, ça aussi. On aime bien être méfiant vis-à-vis des nouvelles technologies.
Non, mais je comprends, c'est des interrogations légitimes. Quand on entend ce qu'on vient de dire là, tu te dis, ça va tous nous mettre au chômage, quoi, en gros. Je pense que c'est très juste ce que tu dis sur le fait. Alors, il y a des études, bon, les chiffres valent ce qu'ils valent, mais qui disent que, 80% des métiers qu'on pratiquera en 2035 ne sont pas encore inventés. Bon, je ne sais pas comment on peut savoir que 80%, puisqu'ils ne seront pas encore inventés, mais enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la tendance, c'est de dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont à découvrir, qui sont à inventer. Il y a des métiers auxquels on n'aurait jamais pensé il y a 20 ans, et qui sont, pilote de drone ou opérateur de drone civil, spécialiste du BIM dans le bâtiment, spécialiste de l'impression 3D. Enfin, il y a tellement, tellement de choses à inventer. Et même dans le domaine de l'intelligence artificielle. Enfin, moi, si j'avais des enfants, je leur dirais, les gars.
Allez-y, foncez.
Foncez, quoi.
Il y a deux, trois trucs à faire.
Il y a sûrement deux, trois trucs à faire, c'est clair. Mais le truc, c'est que. Il faut qu'on s'en saisisse maintenant de ces sujets. Enfin, en France, on a toujours ce truc de. En général, on regarde une technologie, on s'en méfie, on la régule et on la taxe. En général, c'est comme ça que ça se passe. Là, ce serait pas mal si on prenait les devants, surtout qu'on a quand même des super ingénieurs, des super chercheurs en IA, des super startups. Donc fonçons, quoi. Allons-y.
GPT-4 annoncé, on pourra en parler pendant des heures, mais.
Si je peux juste ajouter un truc sur GPT-4.
Vas-y.
Il y a un truc qui m'a vraiment intéressé dans la présentation, c'est la volonté d'OpenAI de justement, tu l'évoquais d'un mot, Gonzague, c'est de créer un écosystème applicatif, c'est-à-dire d'intégrer en fait GPT-4 dans tous les aspects de notre vie quotidienne, de pas être juste le chatbot qui répond à tes questions. Qui a un côté un peu gadget pour le grand public.
Mais qui n'est pas forcément très accessible.
C'est ça.
Si demain on a GPT-4 dans notre voiture, ou sur notre smartphone en assistant vocal, ça va tout changer.
Exactement. Et là, il y a deux exemples. Ils se sont alliés avec deux applications. La première, c'est Be My Eyes, donc pour les malvoyants, qui est incroyable. C'est une appli, je ne sais pas si vous la connaissez, elle existe déjà aujourd'hui sans intelligence artificielle, où tu vas prêter tes yeux à un malvoyant. En gros, le malvoyant, il est devant son frigo, il ne sait pas si sa brique de lait est périmée, et donc il est mis en relation avec toi, qui est volontaire, et toi, tu vas lui dire, parce que tu vois sa brique de lait à distance, enfin, par l'appareil photo de son téléphone, tu lui dis, ta brique de lait est périmée. Demain, c'est GPT-4 qui fera ça.
Ouais, c'est ça.
Qui va décrire, en fait, le monde qui l'entoure comme un assistant virtuel 24 heures sur 24. Ça, c'est un truc, ça te change la vie.
Ça
première chose.
Pour les personnes malvoyantes,
c'est un truc de fou. Deuxième chose, c'est Duolingo, donc une application d'apprentissage de langue, et ils ont fait donc qui va intégrer aussi GPT-4, et donc tu pourras par exemple discuter avec un japonais virtuel, comme si c'était un vrai japonais, et donc qui va te corriger tes fautes, mais en langage naturel, tu vas discuter de n'importe quoi, etc. Là aussi, tu vois, c'est comme si tu avais un prof 24 heures sur 24 dans ta poche, quoi. Là, c'est des applications qui sont très concrètes et qui vont beaucoup plus loin que le simple chatbot.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la concurrence est active aussi, on le voit, avec Gmail et Google qui ont dégainé de nouvelles fonctionnalités IA quelques heures avant ou après ChatGPT. Ouais. Enfin, en tout cas, l'annonce de GPT-4, c'est assez intéressant. Ça a l'air d'être assez fort, hein, ce qu'ils présentent Google. Ils rajoutent de l'IA dans leurs outils bureautiques.
Oui, alors il y avait déjà eu une petite incursion de suggestions automatiques, de suite de phrases dans Gmail. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur Gmail, depuis longtemps, si vous l'utilisez, ça vous propose d'ajouter des destinataires à un mail en se disant, quand vous écrivez à Anthony, vous écrivez souvent à François. Vous les mettez en copie. Vous avez écrit pièce jointe dans votre mail, mais votre mail ne contient aucune pièce jointe. Là, il passe à l'étape d'après, c'est vraiment que Gmail rédige les mails à votre place. Génial. Dans Google Sheets, ils le font aussi déjà, par exemple, quand tu fais des formules mathématiques et que tu agrandis tes cellules, il va automatiquement deviner, il a envie de faire ça. Ou il a mis janvier-février, la suite, c'est forcément mars-avril-mai. Ça, c'est le niveau basique de l'intelligence artificielle. Et là, ils passent vraiment à l'étape d'après. Et puis, ils ont présenté Google Bard il n'y a pas longtemps. Donc, il y a une volonté déjà ils se tirent tous dans les pattes, effectivement, ils font tous des annonces en même temps, en mode nous aussi, machin, qui va prendre le spotlight, qui sera sous le feu des lumières.
Bah pour l'instant, c'est OpenAI, voilà. Il n'y a pas et photo. C'est en train et je pense que chez Google, ça doit être compliqué à vivre quand même.
C'est en train d'être intégré dans tous les outils qu'on utilise au quotidien. Je parlais tout à l'heure à Anthony d'un outil qui s'appelle Notion, qui est très utilisé par les startups, qui permet d'organiser des équipes de travail, etc. Ah, pareil, maintenant, il y a de l'intelligence artificielle dans Notion. Tu peux faire dire, rédige une fiche d'emploi pour un office manager. Et là, ça te fait un truc incroyable. Nous, on s'en est servi pour comparer deux technologies. Dis-nous les avantages de Cisco versus Huawei. Et là, ça te fait toute la fiche.
Incroyable.
C'est génial. C'est ça, parce qu'on parlait des craintes légitimes sur les pertes d'emploi, mais c'est aussi des gains de productivité qui sont incroyables pour les boîtes. Enfin, ça va nous faire gagner un temps énorme dans plein de domaines.
Et puis toutes ces tâches qui sont quand même assez peu valorisantes en quelque sorte, si on ne les fait plus, on fera peut-être des choses plus valorisantes.
C'est vrai. Après, il faut aussi se poser la question, parce qu'il y a des gens qui aussi ne sont pas capables de faire des boulots à très forte valeur ajoutée. Donc, alors, il y a un sujet de formation, on va pouvoir probablement tirer le plus de gens possible vers le haut, mais il y a un moment, il y a des gens, ils peuvent pas quoi, voilà. Donc, faudra aussi se demander.
Tu as lancé l'expression. Est-ce que tout ça va tirer vers le haut la société? C'est finalement la question qu'on peut se poser.
Ouais, c'est vrai.
L'absolu. Est-ce que ça va augmenter notre niveau global intellectuel? Peut-être parce que justement, on fera moins de tâches répétitives et peu valorisées. Eh bien, on fera peut-être des choses plus enrichissantes. Peut-être même pour notre loisir et notre plaisir.
Ouais, mais derrière, ça veut dire qu'il faut avoir toute une réflexion plus globale ce que c'est que le travail. Est-ce qu'il faut un revenu universel? Enfin, t'as tous ces sujets-là qui sont, en filigrane cette question-là.
Et là, on touche du doigt des scénarios de science-fiction.
Bah, des trucs, en tout cas, qu'on n'a pas connus dans la société. Enfin, c'est des changements presque civilisationnels, en fait, quoi. C'est ce que raconte souvent Elon Musk, qui prend en compte souvent ces éléments-là. Ça va être des questions très importantes à se poser dans les années qui viennent.
Il y a ce fantasme de se dire qu'un jour, les robots feraient tout et que nous, on ne travaillerait plus et on vivrait en fait du fruit du travail des robots et on serait dans l'oisiveté la plus totale.
Lisez Isaac Asimov qui parle très très bien de ça. Ouais. Et moi je fais le parallèle avec plusieurs choses. Le cheval qui a été remplacé par la voiture, à l'époque les partisans du cheval étaient là, c'est complètement dingue, on va quand même pas remplacer les chevaux, c'est lunaire et machin. Les caisses automatiques dans les magasins qui remplacent également, malheureusement, les caissiers, mais en fait, c'est vraiment une question de société, c'est-à-dire comment on utilisera ce temps libre et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de notre temps. Et à chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle dans cette émission, on reparle aussi de comptabilité, vous savez, des tâches un peu rébarbatives d'entrer des factures dans un tableur. J'exagère, mais pareil, est-ce que le temps passé actuellement à faire ça ne peut pas servir à amener du conseil, amener de la relation, de la même façon que le médecin peut aider son patient? L'expert comptable, le comptable, en tout cas cette personne qui a changé de métier, qui s'est formée différemment, est-ce qu'elle peut pas accompagner la société qu'elle...
En fait, est-ce qu'elle peut pas augmenter le jus de crâne, finalement?
Exactement. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Les experts comptables, ils sont en train de se transformer depuis quelques années en prenant en compte ces problématiques-là, mais ça prend du temps, évidemment. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on peut s'en lamenter, s'en réjouir, ça n'arrêtera pas.
Ça sera là.
Je dis toujours, on n'arrête pas la marée avec une serpillière, et clairement, l'intelligence artificielle, je veux dire, qu'on en veuille ou qu'on n'en veuille pas, elle sera là.
Et quand on voit à la vitesse exponentielle à laquelle ça va, on aura sans doute d'autres grosses surprises en 2023.
Je pense qu'on a encore rien vu.
Voilà. Alors, on a parlé de Google. Il faut parler aussi de Meta, quand même, Anthony, parce que Meta investit énormément sur plein de choses. Alors peut-être un petit peu moins là ces derniers temps, mais en tous les cas, ils ont quand même un sacré savoir-faire en matière de d'IA. Et la riposte aussi chez Meta s'organise.
Oui, c'est intéressant d'ailleurs parce que alors ils ont annoncé là des suppressions de postes cette semaine et donc
10 000 quand même.
Ouais, 10 000. Ça fait 25% de leur effectif en tout depuis.
Parce qu'ils ont déjà licencié 11 000 en fin d'année dernière.
Ça fait 21 000.
Ouais. Mais alors ce qui est très intéressant, c'est que Zuckerberg, donc en gros, c'est année de l'efficacité 2023, donc on revient à l'essentiel, à ce qui ramène de l'argent. On arrête les projets qui sont pas très intéressants d'un point de vue financier. Par exemple, ils ont arrêté tout ce qui était dans les NFT, enfin en tout cas temporairement. Donc ils disent ça rapporte pas suffisamment pour l'instant.
Par contre, c'est pas super hype quoi. Enfin,
ils sont peut-être passés à côté de la vague, mais peut-être que les NFT vont revenir et que Meta s'y remettra à un moment. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils disent il y a deux choses sur lesquelles on bouge pas. C'est un. Alors j'allais dire un, le métaverse, mais non, en fait c'est deux, le métaverse. C'est un, l'intelligence artificielle, et deux, le métaverse auquel Zuckerberg continue de croire visiblement. Mais un, l'intelligence artificielle. Et effectivement, ils ont aussi dans les tuyaux un projet qui s'appelle Llama, qui est un même chose, hein, une IA générative, alors qui permettrait aussi de générer des vidéos. Moi, j'ai pas pu la tester. Le truc, c'est qu'elle a fuité sur Internet. Il y a des internautes qui ont réussi, parce qu'elle est accessible pour l'instant à des chercheurs agréés par Meta, qui doivent montrer patte blanche, qui doivent expliquer leur process, ce qu'ils vont faire avec, etc. Mais il y a des gens, alors parce que c'est un chercheur, on ne sait pas trop, mais qui l'a mis en ligne, donc il y a des gens qui l'ont testé. Visiblement, elle est très spectaculaire. Ce que j'ai entendu, en tout cas, de ceux qui ont pu la tester, ils ont été bluffés aussi par cette intelligence artificielle. Donc, ils sont sur le coup. Google est sur le coup avec Bard aussi. On sait qu'Amazon travaille également sur des projets. Donc là, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, mais on voit quand même que les autres entreprises, comparées à Microsoft et OpenAI, ils vont quand même plutôt pas reculons, mais de manière plus prudente, peut-être pour éviter
les déboires. Parce que je pense que les enjeux sont immenses en fait pour Amazon, Google et Meta. Peut-être moins pour Microsoft, qui de toute façon rajoute de l'IA à Bing. Personne n'utilisait Bing. Il se dit allons-y. Qu'est-ce que je risque ?
Je suis d'accord.
Et ça marche.
Ça marche.
On n'a jamais autant parlé de Bing.
Tout à fait.
Sérieux.
À un détail près quand même, c'est que on en a parlé.
L'IA dérape parfois,
elle se montre agressive, elle
hallucine. Oui, mais comme c'est l'outsider, c'est pas très grave.
C'est
finalement
moins grave. Ouais.
Ils sont là, c'est un peu le bac à sable du moteur de recherche. Et ça leur va très bien pour l'instant.
Je suis d'accord.
C'est intéressant. On a terminé là-dessus. Il nous reste quelques minutes parce que dans l'actualité, il y a aussi, alors vous le savez, c'est ce projet de masque de réalité mixte chez Apple. En théorie, devrait sortir cette année, en 2023. En tout cas, on devrait avoir, dans les semaines ou les mois qui viennent, des informations. On lit toujours un petit peu au conditionnel parce que, voilà, on parle pas à la place d'Apple, on se permet pas, mais on a quand même des petites bribes d'informations. Et c'est intéressant parce que on en sait un peu plus sur la bataille interne chez Apple concernant ce projet qui est un énorme projet.
C'est un énorme projet parce que c'est le premier nouveau produit entre guillemets depuis l'Apple Watch, nouvelle gamme de produits vraiment. Et alors ce qu'on apprend, alors c'est le Financial Times qui a fait un long papier d'enquête là-dessus, très intéressant, c'est que en gros, alors a priori il devrait sortir cette année ou en tout cas être présenté cette année, mais parce que Tim Cook pousse envers et contre tous en interne pour que le casque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une bataille en interne, une sorte de guerre culturelle et une guerre de clans entre d'un côté les ingénieurs et de l'autre les designers. Et d'un côté Tim Cook qui pousse pour que le casque sorte avec les ingénieurs et les designers qui, eux, depuis des années, disent non, la technologie n'est pas prête. En gros, ces casques sont encore trop gros, trop encombrants. Il faut attendre, et c'est le nerf de la guerre, et c'est ce que dit aussi Zuckerberg d'ailleurs, la miniaturisation des composants, histoire qu'on puisse avoir des casques qui sont pas plus gros que des lunettes, en gros. Aujourd'hui, on n'en est pas là, on devrait pas sortir le produit. Et c'est un problème qui date en fait d'il y a plusieurs années, c'est-à-dire, faut comprendre que chez Apple, le design, c'est un état dans l'état. C'est-à-dire, c'était Johnny Ive à l'époque et le fils spirituel de Steve Jobs. Alors, il a quitté l'entreprise depuis plusieurs années, mais il y a cet esprit-là qui reste.
Oui, il y a une culture du design qui est l'une des forces d'Apple. Quoi,
exactement. Mais du coup, sur ce produit-là, plus que sur n'importe quel autre, visiblement, c'est très, très compliqué. Et Tim Cook, lui, il a d'autres enjeux parce qu'il veut que ça sorte, parce qu'effectivement, il y a des enjeux financiers. Il faut qu'Apple sorte des nouveaux produits. Et il veut aussi en faire une sorte d'héritage personnel. C'est-à-dire, il veut rester. Oui. Il va peut-être pas rester éternellement.
Il est plus jeune, Tim Cook.
Non, c'est ça. Et je crois qu'il avait laissé entendre qu'il passerait pas, que à la fin de la décennie, il serait parti ou quelque chose comme ça. Donc, il veut qu'il y ait des nouveaux produits et imprimer sa marque, d'une certaine manière. Donc, il pousse un peu.
Oui, qu'il ait sa petite statue à côté de celle de Steve Jobs.
Exactement.
Dans le musée.
Il l'aura pas volé, parce qu'il a fait du boulot, Tim Cook, quand même.
Oui, mais c'est vrai qu'il a fait du boulot, mais il a pérennisé le modèle, il a augmenter le modèle, mais c'est vrai que il n'y a pas eu d'innovation technologique majeure depuis qu'il règne sur Apple. Peut-être ça qui doit un peu le frustrer.
Je pense.
En fait, le travail de Tim Cook, c'est aussi beaucoup de travail qui n'est pas visible directement par le consommateur final. C'était l'amélioration de la chaîne de production, de la capacité à estimer à quelle date je peux te livrer ton produit, etc.
Ce qui était sa spécialité à l'ère Steve Jobs, déjà.
Et ce sont des machines. C'est une des sociétés les plus fortes au monde pour faire ça. C'est-à-dire, tu vois, ils sont capables de produire des millions de téléphones et de te dire tu recevras le tien demain, tu recevras machin, de les livrer partout à travers le monde, de fabriquer dans plusieurs usines. Ils sont extrêmement forts. C'est beaucoup moins visible pour nous, parce que nous, on se dit, c'est normal que quand j'achète mon téléphone, il arrive demain. On est habitué par Amazon. Et en fait, c'est une putain de truc de génie. Et aussi, ils ont quand même, tu vois, sur le design industriel, sur la façon de faire les produits, enfin, on est passé à l'étape du dessus. Quand tu vois un ordinateur Apple ou un téléphone aujourd'hui, le niveau de finition est complètement dingue. C'est très dur à faire. Il y a un vrai truc industriel qui se faisait aussi avec Ive, Donc il a transformé Apple, clairement, mais pas par un produit.
Voilà, donc on va voir ce qui va se passer. Visiblement, c'est le boss, donc c'est lui qui signe la fin de la récré. Hein.
Il a le dernier mot, a priori.
Je pense
ouais.
qu'il doit taper du poing sur la table en disant, ça fait 7 ans qu'il travaille sur un masque de réalité augmentée, ouais. donc ça a dû coûter des milliards, et je pense qu'il veut aussi lancer son produit, il doit estimer qu'il est prêt. On sait que lors de différentes interviews, il est passionné par ce sujet-là, il y croit beaucoup. Tu as raison, je pense que c'est aussi un défi personnel. Hein. Ouais. Il veut lancer ce produit-là pour notre plus grand bonheur. Espérons qu'on soit bluffé.
On a tous hâte de le voir, en tout cas, ça c'est clair.
Et puis il y a eu pas mal de fuites de code source Apple qui mentionnent Reality OS, qui serait l'OS, le système l'OS, d'exploitation de ce casque. Donc, effectivement, peut-être que peu à peu, Apple pose les briques qui vont permettre à ce système de fonctionner le jour de sa sortie sur tous nos appareils.
Ouais, c'est passionnant toutes ces histoires, on se croirait dans une fiction finalement.
Mais c'est ça, t'imagines vraiment être en interne chez Apple et voir un peu toutes ces gigas, ça doit être hyper intéressant.
Incroyable.
C'est presque un pays quoi, si tu veux, c'est Game of Thrones.
C'est ça. Et bien voilà, merci beaucoup à tous les deux, encore une fois passionnant de dialoguer sur l'actualité en votre compagnie. Merci beaucoup Anthony.
Merci.
Anthony Morel donc sur BFM Business et RMC tous les jours, et dans De Quoi Je Me Mêle aussi tout le week-end. Et Gonzague d'Ambricourt, merci beaucoup Gonzague.
Plaisir.
Bouche cousue se porte bien.
Bouche cousue se porte bien.
Voilà, le roi du Wi-Fi, c'est Bouche cousue. Et vous restez avec nous. Dans un instant, on va vous donner quelques conseils pour bien choisir votre smartphone. Si votre budget ne dépasse pas 500 euros, on en parle avec Lionel Costa. Tout de suite.
BFM Business et Tech & Co présente De Quoi Je Me Mêle, François Sorel.
Voilà notre deuxième volet de Quoi Je Me Mêle et c'est notre rendez-vous Lab of Knack que vous attendez, je le sais, et ça tombe bien parce que moi aussi. Et c'est avec Lionel Costa. Salut Lionel.
Bonjour François.
Responsable du développement du Lab of Knack, vous avez économisé, vous avez une belle liasse de billets comme ça qui est cachée sous votre matelas. Vous avez compté, vous avez à peu près dans les 500 euros et vous vous dites, avec cette somme-là, je vais essayer de m'offrir un super smartphone. Mais vous ne savez pas comment choisir. Eh bien vous savez quoi ? On va tout vous dire maintenant, puisque c'est le thème de notre rendez-vous Labo Fnac. Qu'est-ce qu'on peut avoir en termes de smartphone pour, allez, on va dire maximum 500 euros? C'est la question qu'on se pose, Lionel, sachant qu'on est dans un segment prix aussi qui est très, très recherché, j'imagine, non?
Oui, vraiment, la gamme entre 200 et 500 euros, c'est là où on a le plus de références, évidemment, qui sont... Il y a le marché du smartphone est tiré par les flagships qui sont à plus de 1002, 1003, 1500 euros. On a même jusqu'à du 2000 euros. Mais le 500 euros, la limite, la barre fatidique des 500 euros, on n'est pas dans du cheap. On est vraiment sur des bons produits et une bonne quantité de références.
Alors déjà, première chose, on peut se dire, est-ce qu'on a exclusivement que de l'Android pour ce prix-là? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché se partage entre Android et iOS. Ouais. Est-ce qu'on peut s'offrir un iPhone à moins de 500 euros?
J'ai vérifié avant de venir à l'émission. Je voulais quand même éviter de dire des bêtises parce qu'il peut y avoir des opérations commerciales, il peut y avoir des petites choses. Aujourd'hui, à moins de 500 euros en produit neuf, il n'y a que de l'Android. Exclusivement que de l'Android. Le premier prix que l'on a actuellement en iOS, c'est l'iPhone SE version 64Go. C'est la plus petite base de stockage. Elle est à 559 euros. Donc, on n'est pas loin des 500 euros. Il y a 59 euros de plus pour quelqu'un qui serait dans l'écosystème iOS. Il faudrait qu'il pousse un petit peu les 500 euros à 559 euros.
Ouais. Et rappelons qu'on a quand même un téléphone, non pas au rabais. Hein, c'est pas ça que je veux dire, mais disons avec un design d'un autre âge. Il n'y a pas de Face ID. Mmh. L'appareil photo est vraiment limite. Ouais. Si on compare à ce qui se passe chez Android, c'est un écran qui est assez petit. Donc, il faut vraiment être fan d'Android. Peut-être à ce moment-là, c'est peut-être le conseil qu'on peut donner, c'est se retourner vers le conditionné, reconditionné, ou pour la même somme, on pourrait taper peut-être sur un téléphone un petit peu plus récent, mais d'occasion.
Hein. Oui, très, très rapidement, j'ai pu vérifier, j'ai trouvé le même iPhone SE en marketplace et en reconditionné à moins de 150 euros.
Voilà. Moins de
150 euros.
Ah ouais.
Et en reconditionné. Après, c'est toujours le savoir. Est-ce qu'on veut prendre de l'occasion? Beaucoup de gens préfèrent acheter du neuf. Et ça se comprend. Mais le reconditionné, je rappelle quand même que le groupe Fnac Darty, qui est le premier réparateur de France, quand on vend en seconde vie des produits, ils sont garantis 2 ans. Donc ça rassure quand même l'acheteur.
Ouais, c'est ça.
Moi, si j'achète sur Le Bon Coin ou sur une autre plateforme, c'est vrai que la garantie, je l'ai pas. J'ai la garantie sortie du lieu de rendez-vous. Point final, ça s'arrête
oui,
là.
C'est ça.
Mais là, voilà, le reconditionné, c'est vraiment une bonne option. Les stocks en reconditionné sont limités, évidemment. On n'a oui. pas un stock.
Parce qu'en fait, c'est tout dépend du marché, de l'offre et de la demande.
Du retour.
Et
exactement.
Du retour, c'est ça.
Mais c'est quelque chose qui est vraiment à regarder quand on sait qu'on est dans l'intention d'acheter. Ne pas hésiter à regarder tout ce qui est seconde vie. Et ça peut même nous orienter sur le choix. En disant, là, j'aurais pas pensé à cette marque. Tiens, bah, cette marque-là, elle est en reconditionné. C'est un truc intéressant. Je vais regarder les éléments qu'on va aborder après. Qu'est-ce qui était important à regarder? Eh ben, ça correspond. Je peux acheter.
Voilà, donc important, hein. Là on vous parle de smartphone de moins de 500 euros, mais neuf, oui. Le reconditionné c'est une autre histoire,
exactement.
On peut taper un petit peu plus haut en termes de qualité,
oui.
Mais c'est vrai que le constat quand même est dur, hein. C'est-à-dire que pour moins de 500 euros, officiellement, on n'a pas d'iOS, voilà.
C'est ça.
Mais en revanche, côté Android, on a, et on va vous le dire, parce que évidemment, Lionel va vous proposer sa sélection, bien évidemment. On se retrouve avec des marques qui ont pignon sur rue, hein. Ça peut être du Sony, du Xiaomi, du Google Pixel, etc., etc. On va y revenir. Quels sont les paramètres hyper importants à regarder dans ce segment de prix, Lionel, à ton avis?
Alors, le premier critère, le labo Fnac, quand on teste un produit, on ne connaît pas le prix. Déjà, premier critère, en fait, dans notre protocole de test, le prix rentre pas du tout en ligne de compte. Il y a certaines notations qu'on peut trouver dans la presse ou dans certains sites qui vont tenir compte du prix. Nous, pas du tout. Qu'un produit coûte 39 euros ou 3000 euros, on le testera strictement de la même manière. Les critères les plus importants aujourd'hui que l'on observe chez les clients, chez les utilisateurs, c'est vraiment l'appareil photo, la qualité d'écran, l'autonomie. C'est ces trois-là qui sont extrêmement importants. L'écran, c'est assez facile à contrôler soi-même. On allume le téléphone en magasin, évidemment. On le tripote, on arrive à voir très rapidement la qualité d'écran avec ses yeux. La partie autonomie, c'est déjà beaucoup plus compliqué.
Oui,
on va se fier à...
On va pas rester 24 heures dans une Fnac en attendant que le téléphone s'éteigne.
Bon, téléphone qui fonctionne 24 heures, on n'en a pas encore, mais, ouais. On s'en rapproche. Et pareil pour la partie appareil photo, si on est dans un magasin avec plein de lumière, des spots de tous les côtés, on va prendre des photos, on va se dire c'est joli, arrivé chez soi, on a une petite lumière un peu lounge, un peu tungstène, etc.
Et on se rend compte que c'est pas la même histoire. Ouais.
C'est pour ça qu'au laboratoire de la Fnac, on essaie de relever l'ensemble des éléments qu'on ne peut pas percevoir immédiatement en magasin. Donc c'est quoi les axes? Donc on a dit, on a la partie écran, la partie autonomie, la partie appareil photo, on mesure aussi la partie audio haut-parleur des smartphones. C'est peut-être pas tout le monde, mais certains utilisent les haut-parleurs pour écouter la radio, pour écouter même les infos ou pour regarder des vidéos sans avoir de casque.
Mais même faire du main libre, tout simplement.
Exactement.
Passer un coup de fil en main libre,
exactement,
avec le haut-parleur du téléphone, ça nous arrive souvent.
Exactement,
hein.
Et ça c'est... Et donc on a des vraies différences entre les haut-parleurs des produits. Certains d'ailleurs, alors petite astuce, juste pour la partie audio, quand le smartphone a deux aérations sur le bas, on se dit c'est un stéréo, il a deux haut-parleurs. Non. La plupart du temps, malheureusement, il n'y a qu'un seul haut-parleur, mais c'est pour des raisons de design, c'est plus quali de mettre des trous des deux côtés, mais en fait, le son ne sort que d'un seul côté.
Ouais.
Petite astuce là-dessus. Et on teste aussi, et là c'est vraiment notre fierté, deux éléments extrêmement importants, c'est la radiosensibilité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la capacité du téléphone à émettre, à recevoir la 2G, la 3G, la 4G.
C'est quand même important, hein, la qualité du réseau. C'est
évidemment, c'est un téléphone qui n'arrive pas à capter ou qui capte très mal, il consommera plus de batterie, il fonctionnera très 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 mal. Et on a la partie performance aussi, où on a développé des outils de mesure, de benchmarking, mais propre au labo de Fnac, hein, c'est pas des boîtes noires, on sait pas ce que ça donne, c'est des vrais résultats qui sont basés sur des critères objectifs, complètement développés au labo de la Fnac, et qui nous permettent de dire la sensation de fluidité, de rapidité sur mon smartphone, comment j'arrive à savoir si celui-là est plus rapide qu'un autre, on le mesure, et ça on le donne avec le petit axe performance. Donc voilà les éléments les plus importants pour arriver à bien choisir le produit. Sur la partie taille d'écran, c'est un élément qui est assez important et qui ne vaut pas une note. C'est pas parce qu'il est petit ou grand qu'il est forcément bien ou pas bien.
Parce qu'après, tout dépend des usages et des goûts de chacun. Hein,
exactement.
Finalement.
Et c'est vrai qu'avant, on avait un petit peu toutes les tailles. Là, on a vraiment... ça se balade entre 5,7 et 6,8 pouces, grosso modo.
D'accord.
On est en centimètres, ça fait du 14 centimètres à 18 centimètres. Hein, c'est à peu près cette taille-là, si je ne sais pas si on voit. C'est l'écart de doigt qu'on a ici, en diagonale. Et petite chose... gros intérêt technologique qui est arrivé, donc c'est l'OLED qui est là depuis quand même un petit bout de temps maintenant, mais sur les produits à moins de 500 euros, c'était pas si présent
non.
que ça.
Et ça se démocratise.
Exactement. Et voilà. Donc là où il y avait que du LCD, du truc classique, là on a du OLED, on a des vraiment des beaux écrans qui avant étaient placés uniquement sur les flagships et qui redescendent en fait dans les gammes. Donc un intérêt génial.
D'une manière générale aussi, on se retrouve avec une constatation. Je pense que tu vas aller dans mon sens, mais aujourd'hui un smartphone à 500 euros équivaut à un flagship d'il y a peut-être 3-4 ans. Ouais. Finalement, ce qui n'était peut-être pas le cas avant.
On se retrouve avec plus vite.
Ouais, ça va peut-être même encore plus vite que ça. Ouais. C'est plutôt intéressant.
C'est hyper intéressant. Et après, c'est vrai que les fabricants veulent toujours communiquer sur des specs de plus en plus élevés avec la dernière puce, etc. Mais il faut pas oublier qu'il y a un équilibre à avoir entre la capacité de la batterie et la puissance de consommation du processeur. Si on a un processeur qui est très puissant et que la batterie, on a toujours la même place pour le mettre au niveau du design, ça serait une batterie qui, malheureusement, une autonomie qui va être réduite. Donc, même avec un processeur pas forcément la dernière génération, pourrait être parfait et fonctionner de manière tout à fait équilibrée avec une batterie suffisamment conséquente et avoir vraiment un ensemble très homogène, très, très polyvalent pour la majorité des gens.
Est-ce que dans ce tarif-là, on se retrouve avec un téléphone qui récolte maximum d'étoiles du labo ?
Alors, on a justement un produit qui a 5 étoiles. Et je suis assez content parce que c'est un produit, c'est un smartphone et une marque que j'aime bien, mais c'est pas de mon fait qu'il a obtenu ça. C'est le Sony Xperia 10-4. Donc c'est un Sony Xperia, c'est un Android évidemment, qu'on vend à 369 €.
Donc il est bien en dessous de 500 €.
Il est même pas tablé à 499, il est vraiment à 369 €. C'est un très très bon produit avec une note d'autonomie de 10 sur 10. En fait, celui-là avec nos tests d'autonomie, il arrive à durer 16h02. On est vraiment, nous, on est des hard, hein. On est intense, hein, sur la partie autonomie. On laisse tourner, il y a pas de pause.
Oui, vous malmenez la batterie. On y va à fond. Avec beaucoup d'usage.
En fait, c'est comme si on était à scroller, à naviguer sur Internet pendant 16h02. En fait, grosso modo, avec la luminosité de l'écran calée à 200 candélas, parce qu'on cale tout le monde de la même manière, on veut pas handicaper ou défavoriser un modèle plutôt qu'un autre. Donc 10 sur 10 en autonomie, on obtient 8 sur 10 en performance, c'est-à-dire que la puissance de calcul du processeur permet d'être suffisamment fluide et rapide pour 8 sur 10, ça va vraiment faire un maximum de choses. Sur la partie radiosensibilité, pareil, au niveau réception, communication, on est à 8 sur 10 également.
D'accord.
Donc un produit qui mérite ses 5 étoiles grâce à ça. Et une qualité d'écran qui est à 7 sur 10, qui a des petits soucis sur la colorimétrie. Mais quand je dis soucis sur la colorimétrie, ça veut dire qu'effectivement, les marques ont tendance à un peu saturer les couleurs. Donc on va se retrouver avec, si on prend, alors j'ai rien contre la Bretagne, hein, si jamais on est en Bretagne et qu'on a un ciel un peu gris.
Ce qui peut arriver de temps en temps.
Bon, on se retrouvera à Punta Cana sur l'écran.
Victor Jakimovic qui nous écoute peut-être, va bien rigoler.
Ouais.
Donc c'est le meilleur rapport qualité-prix.
Oui.
Le seul smartphone de cette sélection qui a 5 étoiles.
Oui.
Donc on est d'accord.
À moins de 500 €, oui.
Son petit point faible, donc, c'est l'écran. On est d'accord, il est 5G, j'imagine.
Oui, bien sûr. Oui.
Voilà. Donc c'est intéressant parce que finalement Sony, qu'on croyait plus ou moins être en train de mourir dans le monde du smartphone, a un produit qui, selon vous, est l'un des meilleurs du moment. En tous les cas, dans cette gamme de prix à moins de 500 €.
Et j'ai pu voir leur gamme. Ils ont une très grosse ambition. Alors sur la partie photo évidemment, dans le passé on s'était rendu compte que les appareils de marque Sony avaient une sous-couche logicielle, la petite interface logicielle pour faire joli, qui était très consommatrice d'énergie.
Oui.
Là c'est plus du tout le cas. On est bon, c'est une base Android assez commune, mais avec la sous-couche Sony qui est pas du tout aussi consommatrice qu'elle était avant.
Donc, notez bien, le Sony Xperia 10-4, 5 étoiles au labo. Après, il y a d'autres alternatives, hein, oui. Forcément.
Alors, j'en ai noté deux autres que je trouve intéressants. Il y a le Xiaomi Redmi Note 11 Pro, qui lui a que 4 étoiles, mais qui est à 349 €. Et on a le Google Pixel 6A, qui est pas le 6 Pro, hein, le 6A, qui lui a 339 €, pareil, 4 étoiles. Donc, deux produits 4 étoiles, c'est pas à rougir. C'est vraiment des bons produits. Et sachant qu'on est extrêmement exigeant, c'est pour obtenir 5 étoiles, je rappelle, sur toutes nos sélections, on est à peu près à 15% de tout ce que nous testons arrive à obtenir 5 étoiles. Ensuite, c'est un peu moins 4%.
Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment, il y a peu d'élus, finalement.
Il y a très peu d'élus pour le 5 étoiles. Donc, 4 étoiles, c'est très très bien.
Ouais. Avec, j'imagine, un focus sur la photo, hein, sur le Pixel 6a. Ouais, il doit être bluffant sur la photo.
En fait, alors, bluffant, il y a des très belles photos. J'ai du mal à dire bluffant parce que peut-être que j'en regarde trop. En fait, maintenant.
En tout cas, c'est ce qu'on dit concernant le Pixel.
Oui, non, ils ont fait un énorme effort par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant. Et à 4 étoiles, en fait, ça ne pardonne pas. Si jamais on veut obtenir un très bon produit, le fabricant a tout intérêt à mettre. Beaucoup, enfin mettre le paquet sur la partie photo, mais également sur la partie processeur, parce que pour traiter toutes ces images, il nous faut un bon processeur. Si on met une belle optique, un beau capteur avec un mauvais pros, ben en fait on a un mauvais traitement d'image et des mauvaises qualités d'image.
Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est allé un petit peu plus loin et vous avez regardé quel était le meilleur smartphone le moins cher possible.
Oui.
Ça c'est intéressant parce que vraiment on pousse. Dans les derniers retranchements vos tests et on tombe sur un Xiaomi qui fait partie de ces téléphones depuis de très nombreuses années qui ont d'excellents rapports qualité-prix.
Oui et je parlais donc de ceux qui cherchent à faire la meilleure en photo avec le pro et celui-là c'est pas un pro, c'est un S, c'est le Xiaomi Redmi Note 11 S qui lui est à 4 étoiles, donc très bon produit et qui est à 249 €. Donc, moitié moins de 500 €.
D'accord.
Donc, à 249 €, on n'est pas du tout sur un truc ridicule. Loin de là.
Oui, 4 étoiles, donc.
Exactement. Et avec des notes, l'autonomie 8/10, il arrive à fonctionner pratiquement 12 heures sans interruption. En performance, il obtient 5/10. C'est là où on a un processeur qui est vraiment médian au niveau vitesse. Mais justement, si on compte pas faire du hard gaming, si on compte pas faire du montage vidéo sur directement sur son smartphone, le processeur impacte très peu là-dessus. Donc c'est pas
oui, important. On garde la fluidité de l'interface.
Exactement. Et les fondamentaux, la qualité de l'écran et la réception réseau, on est à 7/10 et à 8/10. On a très bon produit à 4 étoiles à 269 €.
Voilà, 249 €.
249 €.
Voilà, c'est ça, hein, le Xiaomi Redmi Note 11 S. Si on veut un téléphone qui a une excellente autonomie.
Alors, le Sony, déjà. Le Sony, c'est lui qui a vraiment un score absolument génial.
Mais qui a 369 €.
Voilà, exactement. On a le Vivo Y55. Vivo, pareil, c'est une marque chinoise qui depuis 2 ans rentre sur le marché français et qui marche très bien, qui a vraiment des très très bons produits. Alors celui-là n'obtient que 3 étoiles, mais avec un 10/10 en autonomie et il est vendu à 269 € et 15h42 d'autonomie. 15h42 d'autonomie. Si moi je l'utilise dans ma vie de tous les jours, le 15h42, il va se transformer potentiellement en 22h, 21h, dans ces eaux-là. On est vraiment très critique et très sévère sur la partie autonomie. Donc en autonomie, Vivo Y55.
Le meilleur en photo maintenant, parmi toute cette sélection de smartphones à moins de 500 €, alors c'est étonnant. On s'attendait peut-être pas à ce constructeur-là. Il s'agit de Motorola.
Et peut-être qu'on fera un focus un jour sur les photophones, donc les smartphones sur la partie photo. C'est le Motorola Edge 30 Fusion. Il est à 499 €. Donc lui, il est vraiment
au taquet.
Exactement.
Hein.
Il obtient 4 étoiles en global. Et il obtient une note photo de 8.3/10. J'ai une petite explication sur les notations. Nous testons les capteurs photo avant et arrière. C'est-à-dire que quand on a un smartphone, est-ce que quelqu'un va l'utiliser avec le capteur qu'on retrouve en façade ou en selfie? On peut pas l'anticiper, donc on teste tout. Et ensuite, on a un pourcentage d'importance entre le selfie et le capteur arrière. Et c'est là où on se retrouve avec des produits qui sont très bons en selfie, beaucoup mieux en fait que beaucoup plus que certains gros flagship
qui vont faire remonter
la note moyenne.
Et c'est le cas de ce Motorola.
Et c'est le cas de celui-ci qui a une très bonne note en mode selfie. Et ensuite, alors sans rentrer trop dans le détail, on teste sur 3 focales, grand angle, standard et téléobjectif. Donc grosso modo, en dessous de 20 mm, ensuite 35 mm et ensuite au-delà de 70 mm. Et le selfie, lui, généralement ne fonctionne qu'en grand angle. Il n'est pas fait du tout pour faire du téléobjectif ou du standard, il est fait pour faire du grand angle.
C'est logique parce que le selfie, on veut être plusieurs sur la photo, etc., sans avoir un recul avec un bras de 10 mètres.
Les bras sont limités.
Ouais, c'est ça.
Donc, le Motorola Edge 30 Fusion, c'est justement une belle surprise. Mais je veux dire, c'est l'essence même de notre travail au laboratoire de la FNAC, c'est justement d'arriver à trouver les performances réelles des produits, bien que le marketing ou la communication du produit n'est pas allé dans ce sens-là. Donc voilà, un très très bon produit à 499 €. si on veut faire de la belle photo.
Voilà, donc très belle photo en selfie, mais c'est pas pour autant qu'il fait de mauvaises photos en avec l'appareil à l'arrière.
Non, il est très bon aussi. C'est juste que le selfie, là où d'autres se ratatinent complètement, parce qu'il n'y a pas eu de priorisation de la partie selfie, celui-là est très très bon en selfie. C'est là où ça compense vraiment la note globale photo.
Voilà, c'est le Motorola Edge 30 Fusion. On n'attendait pas Motorola dans ce segment-là, et ça fait plutôt plaisir. Si on veut maintenant le téléphone le plus rapide et le plus performant, avec un processeur qui booste de la mémoire, etc. Pour moins de 500 €, on peut avoir des choses aussi.
Oui, on peut avoir des choses. Et je reviens aussi sur comment bien choisir les produits. Si vous avez un panel de produits, regardez la mémoire vive. 6 Go, c'est le grand minimum. 8 Go, c'est bien. 8 Go de RAM. Voilà, pour les gens qui veulent regarder un petit peu les spécifications.
C'est un peu comme sur les PC d'ailleurs, c'est pareil.
Oui, complètement. La RAM est extrêmement importante, parce que sans RAM, vous pouvez pas lancer deux applications.
Le téléphone RAM, c'est lequel de le dire?
Exactement.
Excusez-moi.
Tu dois pas être le premier à l'avoir fait.
Non. Et donc, confirme.
Le meilleur que nous ayons mesuré au labo, qui se vend actuellement sur la partie performance, c'est le Realme GT Neo 3T. Lui, pareil, il est à 499 €. Il est vraiment
au taquet, on est vraiment en haut de la liste.
Mais il obtient un 9 sur 10 en performance. 9 sur 10 en performance, c'est-à-dire que le Sony Xperia dont on parlait tout à l'heure, qui lui n'a que 8 sur 10, ce Realme-là obtient 9 sur 10 en vitesse.
Donc il est aussi puissant, on va dire, qu'un smartphone haut de gamme, quasiment.
Oui, vraiment, sur cette partie performance. Après, là où il peut y avoir des écueils, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le top, peut-être que la batterie est peut-être sous-cadencée par rapport à l'énergie demandée par le processeur. Donc en tout cas, si on veut quelque chose de fluide, de rapide, c'est le produit qu'on a mesuré comme étant le meilleur et le plus rapide.
Parfait pour le jeu, par exemple.
À ce prix-là, oui. Parce que les jeux sont adaptés sur la partie smartphone, c'est pas comme pour les ordinateurs. Il y a beaucoup d'adaptations qui sont faites pour ne pas fonctionner forcément avec une carte graphique, un chipset GPU qui soit surcadencé. Mais la note performance que l'on fait, justement, évalue la partie web classique et la partie 3D. La partie gaming aussi rentre là-dedans. Tous les jeux qui sont sur smartphone, Android principalement, utilisent des librairies 3D graphiques qui sont utilisées et calculées grâce au chipset GPU des smartphones. Nos tests le prennent en compte ça.
Très bien. Alors que c'est vrai qu'on se pose des questions sur Realme en France. Il semblerait que la société est un petit peu en sommeil. Alors malgré tout, c'est pas pour autant que les téléphones vont s'arrêter d'être distribués.
Oui, on en a plein. Oui.
Mais disons qu'il y a des questionnements concernant l'avenir de Realme en France. Est-ce que c'est un paramètre à prendre en compte, ça,
non,
ou pas?
Enfin, en tant que client, on m'avait posé la question à l'époque de Huawei sur la partie. Et les gens qui ont acheté des Huawei il y a 2 ans fonctionnent toujours avec, en fait.
Oui, donc il n'y a pas de souci.
Si on rentre là-dedans, il y a beaucoup de choses, on peut se dire, je ne sais pas. Pour moi, il n'y a aucune question à se poser là-dessus.
Eh bien voilà, pour moins de 500 €, vous pouvez quand même vous offrir le smartphone de vos rêves et vous avez du choix. Malheureusement, Apple n'est pas présent dans ce classement, il faut rajouter et puis on se retrouve avec un téléphone quand même franchement qui est limite, c'est ça qui est le premier prix problématique. La solution, c'est, on le disait, peut-être se tourner vers reconditionner, qui peut être parfois une très très bonne idée. Merci beaucoup Lionel.
Merci François.
Voilà, Lionel Costa, le responsable du développement du labo Fnac. On se retrouve très vite pour encore une fois d'autres comparos, parce que je sais que vous aimez ça. Et ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis encore une fois, comme chaque semaine. Votre rendez-vous du week-end, vous le savez, en audio, en vidéo, sur YouTube, sur la chaîne Tech & Co et sur BFM Business le week-end. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Portez-vous bien et à très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.